Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Le tireur présumé du métro de New York vient d'être arrêté. Il sera poursuivi pour attaque terroriste. Premiers éléments de l'enquête dans un instant. Marine Le Pen dévoile sa politique étrangère si elle est élue le 24 avril. Rapprochement OTAN-Russie, Europe des Nations. Un projet à l'opposé d'Emmanuel Macron qui s'est employé, lui, à séduire l'électorat de gauche. Il marque pour toujours l'histoire du théâtre et du cinéma français. Michel Bouquet s'en est allé aujourd'hui à 96 ans. On va revenir sur sa carrière exceptionnelle. Dans ce journal, les déclarations inédites de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre, c'était son dernier interrogatoire. Et puis perquisition des gendarmes à l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord, dans l'enquête sur le scandale des pizzas contaminées. La météo, on va retrouver demain du soleil dans la majorité des régions. L'invité éco, on parlera économie circulaire avec Laurent Desplaces, patron de l'ISCOM, de la location tout en un pour les entreprises, avec recyclage des équipements à la clé. Et puis, juste avant 22h30, coup d'œil aux unes des quotidiens pour demain matin.
Europe 1.
Dans un instant, la bataille de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais d'abord, cette dernière minute. Donc, le tireur présumé du métro de New York, interpellé à Manhattan. L'attaque hier a fait 23 blessés à l'heure de pointe. Un revirement après les déclarations initiales de la police. Le suspect va être poursuivi pour attaque terroriste. Nina Droff, il était déjà identifié.
Oui, ce suspect se nomme Frank James. C'est un Afro-Américain de 62 ans. Et l'homme est connu par les forces de l'ordre puisqu'il a déjà été arrêté à 12 reprises, notamment pour vol, trouble à l'ordre public et plusieurs infractions sexuelles. Il était aussi très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube baptisée Prophet of Truth 88, prophète de la vérité. Il y a posté plusieurs vidéos où on le voit s'exprimer de façon plus ou moins cohérente sur les questions raciale, sur la question de l'insécurité, notamment dans le métro. Il s'y attaque également dans de longues tirades aux personnes homosexuelles, ainsi qu'au nouveau maire de la ville de New York, Eric Adams. Le procureur fédéral a, comme vous l'avez dit, déjà annoncé que l'homme serait poursuivi pour attaque terroriste dans les transports en commun et risque la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable.
Nina Droff après l'interpellation donc du tireur présumé de l'attaque du métro de New York. La campagne de l'entre-deux-tours bat son plein, projet contre projet. Marine Le Pen a tenu ce mercredi une nouvelle conférence de presse consacrée cette fois à sa vision de la diplomatie pour la France. En matière de politique étrangère, la candidate RN a dévoilé un projet diamétralement opposé à celui d'Emmanuel Macron, Victor Chabert.
Oui, Marine Le Pen a longuement détaillé son plan de politique étrangère. La candidate a insisté sur la mise en place d'une diplomatie qui défend avant tout les intérêts nationaux et veut que la France redevienne une puissance d'équilibre.
Je remettrai au cœur de mon action diplomatique le retour des valeurs traditionnelles de la diplomatie française. Indépendance, équidistance et constance. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN.
Marine Le Pen promeut donc l'indépendance qui permettrait selon elle de traiter d'égal à égal avec les États-Unis mais aussi avec la Chine ou la Russie. Elle propose d'ailleurs un rapprochement de l'OTAN avec Moscou dès la fin du conflit ukrainien.
Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis.
Interrogée sur ses relations avec Vladimir Poutine, Marine Le Pen a dénoncé un faux procès qui pouvait être également fait à Emmanuel Macron, prenant pour exemple les réceptions du chef du Kremlin par le président de la République à Versailles en 2017 ou à Brégançon en 2019. A noter que cette conférence de presse a été perturbée par des militants écologistes. Une femme a notamment brandi une pancarte en forme de cœur avec Marine Le Pen et Vladimir Poutine en photo. Ils ont été sortis par les services d'ordre du RN.
Victor Chabert. Les voix des électeurs de gauche sont aussi convoitées qu'elles sont disputées entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, car elles seront décisives, sans doute, dans l'issue du second tour. Le candidat Macron s'est employé aujourd'hui à les convaincre, Arthur Delaborde.
Oui, l'idée c'est de rassembler un maximum autour du programme, d'aller chercher tous les électeurs à droite comme à gauche, explique un conseiller du président candidat qui martèle que la philosophie reste la même. Pourtant, après un quinquennat passé à siphonner les voix de droite depuis le soir du premier tour, Emmanuel Macron multiplie les appels de pied exclusivement en direction des Insoumis et des Verts après s'être dit en début de semaine prêt à bouger sur la retraite à 65 ans. Ce matin, il a expliqué vouloir reprendre le concept de planification écologique cher à Jean-Luc Mélenchon. D'après le Canard enchaîné, d'autres propositions seraient sur la table, comme la création d'une taxe temporaire sur les entreprises pour distribuer du pouvoir d'achat. Autre illustration, cet échange hier à Strasbourg entre Emmanuel Macron et une jeune fille voilée.
Vous êtes féministe ?
Oui, moi je suis féministe.
Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes ?
Je suis pour l'égalité femmes-hommes.
Je peux me permettre d'être indiscret ?
Oui.
Vous portez un voile par choix ou vous imposez ?
C'est par choix. Non, mais totalement par choix, monsieur.
Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que
totalement par choix, monsieur.
Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg, qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que d'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit « Le voile sera interdit sur la place publique avec moi ».
La séquence fait beaucoup réagir alors qu'en 2018, Emmanuel Macron parlait du voile comme un objet, je cite, qui nous insécurise et qui n'est pas conforme à la civilité, un revirement qui semble destiné à séduire le vote communautaire. 69% des électeurs musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour selon un sondage IFOP.
Jean-Luc Mélenchon qui a répété 4 fois « Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen » au soir du premier tour. Le candidat malheureux des Insoumis qui a lancé aujourd'hui la consultation de ses 310 000 soutiens, ceux qui ont parrainé en ligne sa candidature et qu'il questionne sur leur choix du second tour. Abstention, vote blanc ou vote Macron. Fin de la consultation samedi 20h, le résultat sera public, mais ne vaudra pas consigne de vote pour les électeurs insoumis. Emmanuel Macron l'emporterait au second tour avec 53% des voix contre 47% pour Marine Le Pen. Sondage Opinionway Kea Partners, 69% des électeurs ont l'intention d'aller voter, ce qui signifierait une abstention de 31% contre un peu plus de 26% au premier tour.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
On se souvient de moi. Que l'on pleure, que l'on désespère, on perpétue ma mémoire dans tous les manuels d'histoire. Que tout le monde connaisse ma vie par cœur, que tous la revivent. Que les écoliers et les savants n'aient pas d'autre sujet d'étude que moi, mon royaume, mes exploits. Qu'on brûle tous les autres livres, qu'on détruise toutes les statues, qu'on mette la mienne sur toutes les places publiques.
Un homme aussi humble qu'il était immense dans son jeu de comédien et d'acteur. Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans. Immense carrière au cinéma et d'abord au théâtre. On vient de l'entendre dans Le Roi Semeur d'Eugène Ionesco. Un personnage inoubliable qu'il aura incarné plus de 800 fois, Marie Jiquel.
Pendant près de 20 ans, il a porté la couronne du roi Béranger Ier dans la pièce incontournable de Ionesco. On vient de l'entendre. Michel Bouquet représente 7 décennies d'histoire du théâtre français, participant au premier Festival d'Avignon avec Jean Villard, interprétant les auteurs classiques. Il était amoureux de Molière, sur lequel il a écrit. Mais le grand Michel Bouquet a aussi brillé au cinéma. Des films tournés avec Truffaut et Chabrol et 2 Césars, dont un pour son rôle de François Mitterrand dans le film de Robert Guédiguian, Le promeneur du Champ de Mars.
Vous êtes trop sentimental. Vous n'avez pas fini de souffrir. Vous savez qu'il y a une parade. Il faut mépriser l'événement.
Il y a 3 ans, Michel Bouquet faisait ses adieux aux planches à l'âge de 93 ans. Des planches qu'il adorait mais qu'il redoutait aussi. Il avait toujours énormément le trac.
J'ai autant peur. Et en même temps, j'ai autant envie. Je pense que je n'ai pas du tout senti le temps passer.
Avec un classique très symbolique pour ses adieux à la scène, Le Tartuffe de Molière, pièce avec laquelle il avait débuté en 1944.
Marie Jiquel, 75 ans de carrière, Michel Bouquet et son jeu complexe, énigmatique souvent, et qu'il savait aussi bien utiliser dans des comédies comme Le Jouet de Francis Weber. C'était en 1976 avec Pierre Richard. Plus près de nous, il y a 5 ans, Nicole Calfon partageait avec Michel Bouquet l'affiche du Tartuffe de Molière. Elle avait avec lui ce petit rituel à la mesure de l'humilité de ce géant du théâtre.
Tous les soirs, je lui prenais la main avant d'entrer en scène. Je jouais donc Elmire. Et il jouait Orgon et je lui disais « Bonne traversée, Michel ». Et tous les soirs, il me disait « Je n'y arriverai pas ». C'est quand même bouleversant. Hein. Et il se remettait toujours en question. Quand j'arrivais dans les loges, il était avec son texte. Dans sa loge, il revoyait tout son texte. Et donc, c'était une épreuve pour lui chaque jour parce qu'il voulait toujours se surpasser. Et donc, très, très grand respect. Là, je suis très, très touchée.
Nicole Calfon, après la mort ce mercredi de Michel Bouquet, nombreuses réactions dans le monde du spectacle. Pour Fabrice Lucchini, c'est tout simplement le plus grand acteur de théâtre français qui s'en va. Nous perdons un père, regrette Charles Berling. Michel Bouquet a atteint la perfection, a encore réagi Pierre Arditi. C'était aujourd'hui la dernière fois qu'il était interrogé au procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam, seul survivant des terroristes, est donc revenu une ultime fois sur le récit de la soirée Gladys Laffitte, mais avec des déclarations inédites sur le rôle qui aurait dû être le sien.
Ah oui, et Salah Abdeslam a pris le temps, hein, très calmement, d'expliquer à la cour la mission que lui avait confiée Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats, quelques heures avant le 13 novembre selon lui. Porter une ceinture explosive et me rendre dans un endroit pour me faire exploser. Ce sera un café du 18e arrondissement de Paris que son frère aîné lui a désigné un peu plus tôt dans la matinée. Et quelques heures plus tard, je vais rentrer, commander une boisson, et là je vais regarder les gens autour de moi rigoler, danser, et j'ai dit non, je vais pas le faire, explique-t-il. C'est la première fois hein, qu'il détaille ce renoncement qu'il avait pourtant déjà évoqué, et jusqu'ici le fait qu'il abandonne sa voiture dans cet arrondissement était resté un mystère. Salah Abdeslam le perce aujourd'hui. J'étais dans un état, je ne savais pas quoi faire, j'ai roulé avec la voiture et elle est tombée en panne, elle s'est arrêtée, dit-il simplement, la main gauche en mouvement comme si cela l'aidait à refaire le fil de la soirée. Ensuite, je suis descendu, j'ai marché, et là, c'est confus, avoue-t-il. Il appellera l'un de ses co-accusés dont il connaît le numéro par cœur, à l'aide, en pleurant, prétextant un accident de voiture.
Et Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre pour Europe 1. Le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, des systèmes d'artillerie et des transports blindés. La France, pour sa part, a livré à ce jour plus de 100 millions d'euros d'équipements militaires, selon Florence Parly, la ministre des Armées, des livraisons qui vont se poursuivre. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau changement de tactique de la Russie ? Moscou menace en tout cas de frapper des centres de commandement à Kiev, alors que l'armée russe s'est retirée des abords de la capitale ukrainienne. Dans l'est de l'Ukraine, on se prépare à un assaut majeur, Caroline Baudry, tandis que le bilan ne cesse de s'alourdir à Marioupol.
Oui, au moins 20 000 morts selon les autorités locales. Marioupol bombardée depuis 40 jours et détruite à 90% selon les habitants. Des experts militaires jugent sa chute inévitable, mais les Ukrainiens résistent, se préparent à une bataille acharnée pour le contrôle total de la ville. Dans une vidéo publiée sur Telegram cet après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle le monde à fournir des armes pour repousser la Russie.
La Russie a la capacité d'attaquer encore, et pas seulement l'Ukraine. La Pologne, la Moldavie, la Roumanie et les États baltes deviendront les prochaines cibles si l'Ukraine perd sa liberté. Les images de Boutcha et Marioupol ont démontré les véritables intentions de la Russie au monde entier. Seules les armes pourraient arrêter cela. Il faut le faire maintenant.
Un peu plus tôt, le président s'exprimait devant le Parlement estonien. On peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est, a-t-il déclaré. Il réclame de nouvelles sanctions de l'Union européenne, un blocus de toutes les banques russes, un embargo sur son pétrole et une participation aux enquêtes sur les crimes de guerre.
Caroline Baudry, les présidents des États baltes et de la Pologne ont pris le train ensemble ce mercredi pour l'Ukraine. Ce qu'ils y ont vu amène le président polonais à cette conclusion. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. À la suite de Joe Biden, le premier ministre canadien Justin Trudeau évoque à son tour un génocide en Ukraine, un terme qu'à l'inverse, ni Emmanuel Macron ni le chancelier allemand Olaf Scholz ne souhaitent reprendre pour le moment. Le chef de l'État met en doute l'utilité d'une escalade des mots pour mettre fin à la guerre. Ce refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide en Ukraine est très blessant, réagit le président Zelensky. L'Afrique du Sud connaît les inondations les plus meurtrières de son histoire. Le bilan toujours provisoire dépasse maintenant les 300 morts. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la côte est du pays. L'usine Buitoni, impliquée dans les pizzas contaminées, a été passée à la loupe des enquêteurs. Aujourd'hui à Caudry dans le Nord, les pizzas fresh-up sorties des lignes de production sont soupçonnées d'avoir contaminé gravement des enfants à la bactérie E. coli. Cette usine Buitoni a donc été perquisitionnée, Lionel Gougelot.
Oui, et dès le début de la matinée, les accès à l'usine ont été bouclés par les gendarmes. Interdiction de s'approcher du site à l'intérieur duquel les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique avaient commencé leur perquisition. Il s'agissait pour eux de saisir tous les documents ou les éléments de preuve qui permettront ou pas de confirmer les soupçons d'homicide et blessures involontaires, tromperie sur la marchandise et mise en danger d'autrui qui pèsent sur le fabricant de pizza. Des agents ont également été vus aujourd'hui sur les silos de l'usine, selon toute vraisemblance, pour y effectuer des prélèvements. C'est donc une suite suite logique de l'enquête ouverte le 22 mars dernier par le pôle de santé publique du parquet de Paris. Depuis, vous le savez, on a appris que des inspections sanitaires avaient révélé dans l'usine des conditions d'hygiène particulièrement dégradées, présence de rongeurs, des manquements sources de contamination microbiologique qui présentaient une menace pour la sécurité des consommateurs. Et même si la source de la contamination à la bactérie Escherichia coli n'a pas été formellement identifiée, eh bien la préfecture du Nord a décidé le 1er avril dernier d'interdire la production de ces pizzas dans l'usine de Caudry. À noter qu'aujourd'hui, d'autres perquisitions ont également été menées au siège social de Nestlé, la maison mère de Buitoni, à Issy-les-Moulineaux.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Alors que le pouvoir d'achat, vous le savez, est au cœur de cette campagne présidentielle, voici un salaire qui fait des vagues. Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis, a gagné 66 millions d'euros l'année dernière. Un montant qui fait polémique, jusque dans les rangs d'ailleurs de l'Assemblée Générale qui avait lieu ce mercredi. Aurélien Fleureau, qu'ont décidé les actionnaires de Stellantis ?
Alors, ils viennent de voter contre, à 52%, contre la politique salariale de l'ensemble de la direction, mais il s'agit d'un avis consultatif. Donc, à ce stade, la rémunération 2021 de Carlos Tavares ne changera pas. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est de 19,1 millions d'euros, avec notamment un salaire fixe de 2 millions et une part variable liée au résultat de plus de 7 millions. Mais les 66 millions d'euros, somme avancée par la société de gestion Fitrust, prend en compte des montants virtuel à ce stade, hein, qui serait potentiellement touché à partir de 2026. Pour comparer, on peut rappeler que par exemple, le patron de Ford aux États-Unis touche environ 20 millions d'euros par an. En Europe, c'est vrai que Carlos Tavares est au-dessus de la moyenne des grands patrons du secteur automobile, mais cela tient à la très forte part variable de sa rémunération liée aux performances. Et là, il a mené Stellantis très haut dès la première année avec une marge opérationnelle de 12%, ce qui est très élevé dans le secteur. 13 milliards d'euros de bénéfices, ce qui a permis d'ailleurs de verser une prime d'intéressement d'environ 4 000 euros à chaque salarié.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Les deux derniers quarts de finale, retour de la Ligue des Champions, se jouent en ce moment même. L'Atlético Madrid reçoit Manchester City, 0 partout pour le moment. Liverpool accueille Benfica, 1 partout de ce côté-ci. Si on en reste là, Manchester City et Liverpool se qualifieraient pour les demi-finales. Une légende va prendre sa retraite. Alison Félix, l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire, mettra fin à sa carrière à la fin de la saison. La sprinteuse américaine âgée de 36 ans. Des patous ou des caniches, des boxers ou des schnauzers, un foyer français sur trois partage son quotidien avec un chien. Résultat du tout premier baromètre CSA, les chiens et les Français. La France compte plus de 7,5 millions de chiens. 84% des personnes interrogées avec ou sans compagnon à quatre pattes déclarent les aimer. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret. Demain, vous aussi vous aimez les chiens, Marlène ?
C'est pas un temps de chien, je préfère les chats, bon. Pardonnez-moi.
Mais... Eh bien tant pis pour vous.
Mais c'est pas un temps de chien demain.
Et c'est retour, c'est très belle transition. C'est donc le retour du soleil demain jeudi, Marlène.
Absolument, Alexandre, le soleil revient tranquillement, hein. Il n'est pas pressé parce que la matinée sera souvent nuageuse avec pas mal de brouillard au nord et à l'ouest du pays. Et vraiment que dans les régions du sud, depuis l'est des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, que là on pourra se réveiller sous un ciel assez bien dégagé. Un petit voile nuageux, on le signale sur la Côte d'Azur, mais il va se dissiper au fil des heures. En revanche, le voile nuageux en Corse va se maintenir toute la journée. Sur le reste du pays, un après-midi plutôt sympa, j'avais envie de dire, plutôt bien ensoleillé, donc après cette matinée un peu nuageuse comme ça. Attention près de la Manche, ciel un peu plus changeant avec parfois des nuages tenaces, notamment près des côtes, hein, ou sur la côte carrément. Nous aurons aussi les restes de notre perturbation d'aujourd'hui, hein, qui a donné quelques pluies. Donc le matin, quelques gouttes entre le Pays Basque et le Grand Est, hein, grosso modo, cette diagonale. Et puis l'amélioration va se faire au fil des heures. Mais dans l'après-midi, par évolution diurne, avec la hausse des températures, des nuages qui vont bourgeonner, ça va tourner à l'inverse, parfois à l'orage sur le relief, et ça va concerner l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura et puis l'Alsace aussi. Voilà. Du côté des températures, ça remonte. On est au-dessus des moyennes de saison. Alors, belle progression pour le golfe du Lion. Hein. On avait 15-16 degrés, ça va monter jusqu'à 22-23. La maximale d'ailleurs est prévue, par Météo France, 25 degrés dans le Languedoc et en Provence. Le plus frais près de la Manche, 13 à 18 degrés. Le long de l'Atlantique, 18 à Biarritz jusqu'à 22 à Nantes. Et puis ailleurs, eh bien c'est 20 à 25. Hein. 21 à Paris, à Bourges et à Auch. Nous aurons 20 degrés du côté d'Alençon, Nancy et Lille. 22 à Besançon, 23 à Lyon, 24 à Grenoble.
Eh ben c'est plutôt agréable à l'oreille tout ça. Merci beaucoup Marlène Duret. On fera un nouveau point avec vous à minuit. Dans un instant, top à Wall Street. Et puis l'invité éco, on va parler économie circulaire avec Laurent Desplaces, le patron de Leasecom. À tout de suite.
Europe 1, Alexandre.
Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, après trois séances de baisse, Wall Street reprend un peu de hauteur dans le sillage du pétrole.
Ça va un petit peu mieux, oui. Wall Street qui remonte. Le Dow Jones remonte de 1,01%, 34 565 points. Le Nasdaq reprend 2%, un petit peu plus, 2,03%, 13 643 points. Le pétrole grimpe, oui, il remonte de 3%. À 104,20 $ le baril américain, l'OPEP a prévenu de ne pas être en mesure de compenser la baisse de la production russe si l'embargo européen se durcit. Donc évidemment, ça fait monter les cours du baril. Chevron en profite, plus 1,6%. Exxon, le géant pétrolier américain, gagne 1,5% à plus de 86 $ ce soir. Et puis les valeurs de technologie se reprennent aussi. Apple, plus 1,6%. Microsoft, plus 2%. Google, plus 1,7%, et Tesla reprend même 3,5% à 1022 $. L'euro reste sous les 1,09, 1,0885 face au dollar.
La bourse de Paris a continué d'hésiter aujourd'hui pour terminer quasiment stable en clôture.
Oui, 6542 points. On est vraiment autour du 0, plus 0,07%. Le marché a été bridé par les groupes de spiritueux en particulier en raison des contraintes d'approvisionnement qui plombent le secteur avec les reconfinements en Chine en particulier. Rémy Cointreau cède 4%, un petit peu plus, 4,4%, 182,70 €. Et puis Pernod Ricard repère 2,5%, 192,25 €. Il y a quelques baisses aussi à signaler du côté d'Ubisoft dans les jeux vidéo, moins 4%. Atos aussi perd 4% avec Worldline, moins 2%.
Exception du jour, LVMH termine en hausse dans la foulée de l'annonce de ses comptes trimestriels.
Oui, 634 €, LVMH plus 0,5%. Le numéro 1 du luxe a publié une croissance de 29% au premier trimestre, 18 milliards d'euros. C'est l'activité mode et maroquinerie qui a tiré la performance à la hausse, alors que les vins et spiritueux, on en parlait, ont piqué du nez. Les autres places financières sont assez stables. Le DAX recule de 0,3%, mais Milan prend 0,2% avec Amsterdam. Londres est inchangé et le CAC 40 en hausse de 0,07%, 6542 points.
Merci Didier Hamot. L'invité éco ce soir sur Europe 1 est un spécialiste de l'économie circulaire au service des entreprises. Bonsoir Laurent Desplaces.
Bonsoir Alexandre.
Vous êtes président de LeaseCom, vous êtes donc spécialisé dans le leasing circulaire à destination des entreprises. On va s'arrêter quelques instants, si vous voulez bien, sur ce principe de leasing circulaire. En quoi ça consiste ?
En fait, le leasing circulaire, c'est tout simplement être capable de faire évoluer en réemployant et en réutilisant les actifs que nous louons à des milliers d'entreprises françaises.
À des milliers d'entreprises françaises. Quand vous dites actifs, c'est à peu près tout, hein. Informatique.
Notre premier marché informatique et ensuite 20 marchés jusqu'au métier de l'hôtellerie de la restauration.
Oui. L'idée donc, c'est qu'il vaut mieux louer que détenir quand on est une entreprise.
Ah, depuis de nombreuses années, mais encore plus ces dernières années, avec l'économie de l'usage qui s'est développée énormément.
Donc informatique, logiciel, téléphonie.
Téléphonie, sécurité, matériel de équipement de garage, équipement, petits équipements industriels, et donc, comme je le disais, jusqu'aux équipements pour les métiers de la restauration, par exemple.
Il vaut mieux louer que détenir. Le principe, l'idée finale, c'est qu'on est gagnant aussi bien sur le plan économique que sur le plan écologique.
Exactement, parce qu'on l'a bien vu avec l'économie circulaire, l'objectif est de réemployer, de réutiliser, voire de recycler les équipements.
Ouais. Pour un loyer unique, hein, c'est ça que vous proposez, vous louez les équipements et tous les services qui s'y rapportent.
Exactement, avec notre réseau de 1400 partenaires en France, nous offrons un package global d'offres intégrant justement le matériel, le service et éventuellement les consommables.
Alors quand vous dites le service exactement, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça peut être la maintenance, l'accompagnement d'évolution des équipements qu'il y a du logiciel par exemple.
Mmh. Et quand le matériel est dépassé, il se passe quoi ?
Eh bien on le remploie et on le réutilise et on le met à disposition d'autres entreprises. C'est ça l'intérêt de l'économie circulaire, c'est d'être capable, avant sur les équipements informatiques, on se disait on achète et on jette. Parce que l'évolution technologique faisait qu'on ne pouvait peu ou pas réutiliser les équipements.
Alors, en quoi un équipement informatique, par exemple, dont l'obsolescence est très rapide, peut trouver une deuxième vie dans une autre entreprise ?
Tout simplement parce que tout le monde n'est pas au niveau, n'a pas les mêmes besoins technologiques. Donc, on est capable aujourd'hui, bien évidemment, d'offrir 2, 3, voire 4 vies.
À quatre vies aux équipements informatiques. Donc une entreprise high-tech qui a des besoins de puissance très importants va se retrouver son... Enfin, retrouver, c'est vous qui allez le retrouver, dans une autre entreprise, par exemple, d'un autre secteur d'activité.
Exactement. On est capable de réutiliser aujourd'hui les équipements à peu près entre 2 et 4 fois.
Et alors, au bout de 2 et 4 fois, il se passe quoi ? Là aussi, vous intervenez encore.
À ce moment-là, on les recycle. Et on traite les métaux, l'ensemble des équipements, pour être capable de les réemployer dans la construction de nouveaux équipements.
Donc vous êtes vraiment sur toute la chaîne de A à Z.
Exactement, en amont avec notre réseau, la proximité, et ensuite en aval avec le recyclage final quand on n'a pas pu le réutiliser pour la 1e fois.
Alors justement, si on parle de recyclage, vous avez l'ISCOM, votre propre centre de reconditionnement. Hein.
Oui, nous sommes le premier acteur depuis toujours, depuis 1986. Je suis d'ailleurs rentré dans cette entreprise à cette date-là pour créer ce service.
Vous êtes l'un des pionniers.
Il y a eu des entreprises beaucoup plus anciennes.
Qu'est-ce qui s'y passe justement dans cette usine de Fresnes près de Paris ? Vous recevez là justement ces appareils qui ont eu 2 vies, 3 vies, 4 vies, vous les remettez en condition ?
Aujourd'hui, l'ISCOM finance à peu près 800 000 équipements. On en reprend actuellement 30 000 par an. Et donc aujourd'hui, ces 30 000 équipements, justement, on les teste pour être capable de les remettre en circulation vis-à-vis d'autres utilisateurs.
Les entreprises sont de plus en plus dépendantes. J'imagine que vous êtes au premier poste pour le vérifier du digital, justement, et de cette nécessité de se tenir à jour, de savoir quoi faire du matériel quand on s'en débarrasse.
On a surtout vu, à l'occasion du Covid, que les matériels d'occasion n'ont jamais été autant plébiscités parce qu'ils étaient disponibles, et on le voit encore aujourd'hui avec le manque de disponibilité d'équipements neufs.
Quel est l'intérêt justement pour les entreprises de recourir au leasing circulaire que vous proposez si vous adressez à elles, celles qui n'y seraient pas encore passées ? C'est à la fois donc des gains de productivité et une meilleure protection de la planète, c'est les deux à la fois.
Oh, ça va même au-delà, parce que bien évidemment la protection de la planète, parce qu'on s'engage sur bien suivre le process de traitement de ces déchets, bien évidemment, mais également optimiser économiquement, parce que comme on va être capable de le réemployer, on va en tirer un profit, on va le partager avec nos locataires, et également parce qu'on prend véritablement un engagement en termes de consommation dépenses énergétiques des équipements, où on va compenser les émissions carbone de tous les équipements que nous louons. Donc on a un vrai engagement.
Vous faites comment concrètement pour ça justement ?
On mesure la dissipation calorifique des équipements que nous louons à l'ensemble de nos locataires et on compense ces émissions carbone annuellement.
Oui, mais comment vous les compensez ces émissions carbone ?
À travers des dépenses en CO2, en euros CO2.
En euros CO2, donc exactement. C'est des dépenses que vous engagez, d'accord. Est-ce qu'on peut le mesurer, ça, justement ? Vous avez des chiffres qui nous parleraient un petit peu en termes de vertu pour la planète ?
Ah oui, tout à fait. On dépense à peu près... C'est 20 000 euros carbone que nous dépensons tous les 6 mois pour que, véritablement, il y ait une compensation carbone de toutes ces émissions qui sont émises par les locataires.
L'ISCOM, leasing circulaire, l'ISCOM dont vous êtes le patron, Laurent Desplaces. Merci de nous avoir rendu visite ce soir sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À la une de la presse, demain jeudi 14 avril, les dangers d'un programme, celui de Marine Le Pen, dont traitent les échos, les impasses du projet de Marine Le Pen, des mesures aux vertus sociales contestées pour un coût exorbitant, écrit le quotidien économique. De nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat apparaissent impraticables juridiquement et inefficaces économiquement. Libération se focalise également sur la candidature et le programme de Marine Le Pen. Liberté, mon œil, titre Libé. Mépris des institutions, loi liberticide, pression sur les journalistes. Si la candidate du RN aime se poser en défenseuse des libertés, son programme est une négation de l'état de droit, écrit Libération. Le Figaro se penche sur le devenir des socialistes et des républicains. Deux partis en péril, éliminés dès le premier tour avec des scores historiquement bas. Le PS et les Républicains s'interrogent maintenant sur leur avenir. 22h30. Vous êtes sur Europe 1 et c'est Olivier Delacroix qui vous rejoint à présent pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Comment ça va Olivier ?
Écoutez, tout va bien.
Bon.
Prêt ?
Vous avez un œil sur les quarts de finale, retour
exactement,
de la Ligue des Champions, je crois.
Vous savez combien je suis passionné de football, donc c'est vraiment des matchs très intéressants. Oui, j'ai un œil.
Un petit prono ?
Non.
Non.
Je ne m'y risquerai pas.
On va vite le savoir. Hein.
Oui, c'est bientôt fini là.
C'est bientôt terminé.
Plus que 20 minutes. Donc bon. On va voir.
Bon.
On va voir si c'est une demi-finale espagnole entièrement, si l'Atlético de Madrid arrive à marquer contre Manchester City. Mais bon, ils sont bons, ces Anglais, ils sont bons. On devrait s'en inspirer en France.
Ah, alors ça, je vous laisse ce commentaire.
Bon, tout va bien autrement?
Ça va, ça va très bien.
Très bien. Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure, Olivier.